Paul Féval, Les habits noirs, deuxième partie, trois pattes. Chapitre premier, l'aigle de Meaux, numéro 2. Derrière la basilique Saint-Denis, les nuages tumultueux s'amassaient pour former le lit d'or, de pourpre et d'émeraude où se couche notre soleil d'été. Tout ce brocart violent donnait au ciel, du côté du sud-ouest, des tons étranges et faux dont la splendeur hardie encadrait les hauteurs de Montmartre. C'était le dernier dimanche du mois de septembre, en l'année 1842. Il faisait chaud, mais les deux berges du canal de l'Ourcq, mouillées par une récente averse, brillaient aux rayons obliques du soleil. Le vent du nord-ouest emportait vers les hauteurs de Romainville les perfides parfums de Pantin, et à la station de Bondy, on ne subissait déjà plus qu'à moitié l'influence délétère de Paris. J'ai dit la station de Bondy, non qu'il y eût alors un chemin de fer dans ces parages, mais parce que, du bassin de la Villette à Meaux, le service des bateaux-postes venait d'être organisé, excitant une joie folle et des espérances exagérées sur les deux rives de l'Ourcq, qui aspirait sérieusement à devenir un fleuve, mais est resté un cours d'eau moins considérable que le Danube. 6 heures du soir sonnaient au lourd clocher de Bondy. L'aigle de Meaux numéro 2 filait entre les deux plateformes de gazon à 50 pas de son fougueux attelage. Il y avait des curieux sur les rives pour le regarder passer, mais son pont, hélas, était presque désert. Le capitaine, revêtu pourtant d'un galant uniforme, riche et guerrier, avait compté 3 fois son personnel payant avec mélancolie. Ses rêves n'étaient pas couleur de rose, et il ne faut point s'étonner de la distraction qui l'empêcha de répondre à l'un de ses voyageurs, demandant à quelle distance on était encore du château de Bois-Renault. Ce voyageur n'était pas, il faut le dire, de ceux dont le costume et la tournure imposent. C'était un homme de 30 ans ou à peu près, de taille moyenne, maigre dans la partie supérieure de son corps, mais possédant une paire de mollets admirables qu'il mettait en évidence avec une naïve fierté. Sa physionomie, peu accentuée et très douce, exprimait sur toute chose le contentement de soi-même. Il portait, malgré la chaleur, un paletot de peluche frisée, de nuances tendres, usé au cou des trop étroits, une cravate noire, roulée sur un col de baleine, si haut et si raide que ses joues, un peu flasques, retombaient de chaque côté comme des linges mouillés, une chemise invisible et un pantalon noir collant dans les chaussons de lisière. Sur sa tête, coiffée de cheveux blondâtres, un vieux chapeau gris perchait, ombrageant le sourire de ses traits longs et plats. Il se tenait droit, cambrait le jarret, et souriait aux dames discrètement. Il y avait des dames, entre autres une très belle jeune fille, à l'air souffrant, timide et fière, qui venait de rabattre son voile de tulle noire pour ne point répondre aux politesses intempestives de deux malotrus. Elle rêvait en faisant semblant de lire. Sa toilette n'était pas loin de parler d'indigence, et cependant toute sa personne, depuis ses pieds charmants, chaussés de trop fortes semelles, jusqu'à ses doigts mignons, déplorablement gantés, trahissait un tel cachet de distinction qu'un Lovelace parisien eût regardé à 2 fois avant de se lancer contre elle. Ses grands yeux, d'un bleu obscur, frangés de longs cils noirs, hardiment recourbés et contrastant avec les riches nuances de ses cheveux blonds, étaient relevés à demi quand notre voyageur, au vieux chapeau gris, avait prononcé le nom du château de Bois-Renault, et autour de ses paupières quelque chose brillait qui ressemblait à des larmes. « Conducteur, » répéta le chapeau gris en s'adressant de nouveau à l'audacieux navigateur de qui dépendaient les destinées de l'aigle de Meaux numéro 2, « j'ai l'avantage de redemander si nous sommes encore loin du château de M. Schwartz. » Monsieur Patu, le capitaine, habitué à regarder d'un œil froid les tempêtes du canal de l'Ourcq, fut blessé au vif par ce mot du conducteur. « À qui croyez-vous parler, l'homme ?» répliqua-t-il fièrement. Le chapeau gris repartit avec la dignité courtoise d'un raffiné d'honneur qui entame une querelle. « Je ne méprise personne, mais je veux qu'on m'appelle monsieur devant mon nom de 6 000 or quand j'ai payé ma place intégralement comptant au bureau. » Le capitaine haussa les épaules, tourna le dos et alluma un cigare à paille pour arpenter le pont. Monsieur 6 000 or le suivit. Il ôta son vieux chapeau gris avant de l'aborder et découvrit ainsi un de ses fronts terreux où la chevelure semble collée par le poids du mouchoir qui va chercher un asile sous le couvre-chef inamovible. « Conducteur, dit monsieur 6 000 or, cette fois avec une politesse tout à fait exagérée, quoique versé plus spécialement dans la danse des salons, dont j'ai tous les brevets, on a cultivé aussi la contrepointe et l'escrime française à ces moments de loisir. On vous offre conséquemment une tripotée, comme quoi je suis mécontent de votre conduite grossière à l'égard d'un artiste tel que moi. » Le premier mouvement du capitaine fut un geste vif qui prouvait du nerf. Il était vigoureux et bien taillé. La conscience seule de la haute position qu'il occupait à bord de l'aigle de Meaux numéro 2 l'arrêta. « L'homme, répliqua-t-il en baissant la voix, mes passagers, ouvre l'œil, pas de scandale. Vous avez ravalé un officier jusqu'au conducteur, cela mérite explication, en un lieu convenable. » Vous me trouverez soit à Meaux, soit à Paris, de 2 jours l'un, au siège de l'administration à midi, le soir à l'hôtel du Cygne de la Croix, à Meaux, et à Paris à l'estaminet de l'Épi scié, derrière la galiote du boulevard du Temple. C'est bien, conducteur, on a saisi, dit avec gravité 6 000 or, qui remit son chapeau sur sa tête. Vous aurez votre compte en règle avec les 400. « Il fera jour demain, » grommela le capitaine, en réponse à cette dernière menace. Ces simples paroles produisirent sur monsieur 6 000 or un effet qui tenait du prodige. Il pâlit, et puis le sang vint à ses joues. Un étonnement mêlé d'effroi remplaça l'expression provocante de son visage. Ses yeux, ornés de cils incolores, se prirent à battre comme si un coup de soleil les eût frappés. Il voulut parler, mais il ne put. Il essaya de marcher pour rejoindre le capitaine qui s'éloignait. Ses chaussons de lisière étaient rivés au plancher du pont. C'était un homme foudroyé. Tout le monde a pu lire des histoires intéressantes où il y a des mots qui sont des talismans. C'était un mot, ou plutôt c'était 4 mots qui avaient fait pâlir et rougir monsieur 6 000 or. « Il fera jour demain. » Chez nous, en tout temps, on conspire. Ces 4 mots ressemblaient à ces formules, terribles au fond, qui sonnent plus haut qu'un tocsin à des heures funestes. Monsieur 6 000 or, sous ses haillons, le capitaine Patu, sous sa livrée, n'avait pas l'air d'être des hommes politiques. Mais en ces matières peut-on se fier aux apparences? Le style lui-même ne prouvait rien. Il en mange. Telle fut la première pensée du chapeau gris, qui ajouta en lui-même avec un frisson, « Dire qu'on ne peut pas faire un pas dans Paris sans marcher dessus quelqu'un qui en mange. » Monsieur 6 000 or était un ancien maître à danser de la barrière d'Italie. Jamais il n'avait choisi ses élèves parmi les princes ni parmi les banquiers. Sa clientèle était au régiment et à l'atelier. Il n'avait pas fait fortune. Doué d'une âme ambitieuse, 6 000 or avait mis de côté son art pour entreprendre les affaires. Il est certain qu'il voyait la vie en large et visait à un crédit illimité au restaurant du grand vainqueur, avec 300 francs de loyer quelque part et l'argent de poche pour trôner au balcon du théâtre Montparnasse. Des aspirations aussi folles peuvent mener loin. Peut-être descendait-il d'une famille historique par les femmes. Le mystère le plus absolu enveloppait sa naissance. Son nom ressemblait à un sobriquet. Il nourrissait en secret l'espoir de le rendre célèbre. Comment? Les mémoires du temps sont muets à cet égard. On peut dire seulement qu'il appartenait à cette école réaliste qui, en dehors de l'art, vend honnêtement des contremarques et rabat avec complaisance, pour un salaire facultatif et modeste, le marchepied des voitures. ce n'était pas un oisif, car tantôt il distribuait des prospectus de restaurants et tantôt il arrachait nuitamment les affiches de spectacles. On l'avait vu aussi parfois retenir des places à la queue des théâtres et guetter les Anglais dans la cour des diligences pour leur apprendre le chemin des lieux suspects. Peu à peu, cependant, il s'était retiré de cette existence laborieuse. Le mystère se faisait autour de lui. Il travaillait encore, mais à quoi encore un secret? Secret profond, même pour Échalot, l'ami fidèle et dévoué qui lui donnait présentement asile, car Similor avait vendu son lit pour briller. Ses mœurs n'étaient pas pures, il prodiguait follement ses ressources. Échalot, le Pylade, de nature plus solide, avait au moins une position sociale. Il tenait une agence générale à son 6e étage du carré Saint-Martin et faisait, mais en vain, tous ses efforts pour être honnête. Depuis quelques jours, Échalot nourrissait des soupçons contre Similor. Celui-ci faisait de longues absences et laissait Saladin à la garde de son ami. Ultérieurement, nous saurons ce qu'était que Saladin. Quand on interrogeait Similor, ses réponses, habilement évasives, laissaient entendre que d'immenses intérêts dépendaient de sa discrétion. « J'en mange, » disait-il, avec une emphase qui redoublait la fièvre curieuse des Échalot. Et quand on le pressait, il ajoutait mystérieusement « J'ai levé la main que je me couperais la langue. » Au milieu d'un groupe de passagers, petits négociants de mots et campagnards des villages situés sur la route, un personnage fort bien couvert tenait le dé de la conversation dont le château de Boisrenaud, nommé à l'improviste, faisait justement les frais. Ce personnage, petit mais doué d'une figure majestueuse qu'embellissait encore une paire de lunettes d'or, parlait avec l'heureuse abondance qui s'acquiert au palais, prenait pour s'écouter des poses nobles et marchait dans des souliers bavards qui criaient à chaque pas comme des lapins d'un soir. « Je vais précisément dîner au château, disait-il. Le baron et moi, nous sommes de vieux camarades, et je lui donne ma soirée du dimanche. Il n'a pas toujours roulé sur l'or, ce garçon-là. On dit qu'il a pêché ses premiers 100 000 francs dans la bouteille au noir, interrompit un natif de Vaujours, jaloux à la fois des millions du baron et de la faconde du passager bien couvert. « On dit ça et ça, répliqua ce dernier. » Sa quoi et sa caisse ? Demanda aigrement le natif. Ça et ça, monsieur, je dis bien. Il y a un fait curieux et qui étonne le vulgaire. Moi, j'ai eu l'honneur d'appartenir à des assemblées délibérantes. Avec 1 000 francs, vous m'entendez, avec 1 000 pièces de 20 sous, monsieur Schwartz a gagné à Paris en 15 mois 400 000 francs. Oh, absurde, dit l'indigène avec franchise. Permettez, si vous connaissiez l'art de grouper les chiffres, je connais le commerce honnête. Permettez, vous parlez à un ancien député, monsieur Contentin de la Lourdeville, et vous parlez d'un capitaliste qui possède maintenant plus de 20 millions liquides. Solide ? Demanda insolemment le natif. Comme les tours de Notre-Dame. Voulez-vous que je vous explique ? Le gain de 400 capitaux pour un en 15 mois, je veux bien. C'est simple comme bonjour. Prenez seulement la peine d'écouter. Monsieur Cotentin de la Lourdeville fit un pas et ses souliers vagirent. La galerie attentive l'entoura. Pour faire fortune à Paris, reprit-il, il faut ça et ça et puis ça. En 1825, je me souviens d'avoir plaidé l'affaire Ménotte à la même époque. Je l'aurais gagné haut la main, sans l'accuser qui était un nigaud. En 1825, monsieur Schwartz arriva à Paris avec 1 000 francs. Connaissez-vous les Halles ? Monsieur Schwartz avait son idée. Dans la rue de la Ferronnerie, il loua une chambre. Il y avait au hall un vieux Schwartz qui donnait des leçons de petite semaine. Notre Schwartz, à nous, prit pour 100 sous de leçons. Quelle spéculation, messieurs, si on la connaissait bien. Mais il faut tenir dur et veiller au grain. 5 francs prêtés le lundi, 6 francs rendus le dimanche, voilà l'élément, il est joli. Monsieur Schwartz, sortant des mains du vieux Schwartz, fit un bureau dans sa mansarde. Ces 1 000 francs, prêtés jusqu'au dernier sou, produisirent, au taux légal de la petite semaine, 1 200 francs ronds le premier dimanche. Le second dimanche, ces 1 200 francs lui rapportèrent 1 440 francs. Le troisième, il eut 1 728 francs. Le quatrième, 2 073 francs 50 centimes. Admettez-vous cela? Oui, on ne va pas contre les chiffres. Négligeons les 73 francs 50 centimes pour les frais, non-valeurs, etc. Le principe reste celui-ci. Capital doublé en 28 jours. Eh bien, accordons le mois rond pour désarmer toute objection. J'aime mieux concéder ça et ça que d'être taxé d'exagération. Y êtes-vous? 4 000 francs le deuxième mois, n'est-ce pas? 8 000 francs le troisième, 16 000 francs le quatrième, 32 000 francs le cinquième, 64 000 francs le sixième, 128 000 francs le septième, 256 000 francs le huitième, 512 000 francs le neuvième. Je vous fais observer que nous avons déjà dépassé le but. Le natif voulut protester. Permettez, s'écria Cotentin de la Lourdeville, au 15e mois, en suivant cette progression géométrique, nous obtenons 32 768 000 francs, ce qui est un agréable résultat. Je prévois vos objections, je fais plus, je les approuve. Il y a les mécomptes, ça et ça. En outre, arrivé à un certain chiffre, on trouve difficilement dans l'enceinte des Halles 2 ou 3 millions de marchandises des 4 saisons qui vous empruntent 5 francs par semaine. Tel est l'écueil. Aussi, après 15 mois, M. Schwartz, quand il se maria, n'avait encore que 400 000 francs, c'est-à-dire la 82e partie de ce qu'il aurait dû avoir. Et encore, bien des gens l'accusèrent d'avoir trouvé, pour parfaire la somme, quelque objet qui n'était point perdu. Pendant que la galerie riait et s'étonnait, Similor avait suivi avidement ses calculs aussi exacts qu'avantageux. Depuis bien longtemps, il cherchait un moyen de se baigner dans l'or. Il allait aborder poliment M. Cotentin de la Lourdeville pour lui demander où l'on se procurait les premiers 1 000 francs, lorsqu'un singulier attelage qui longeait en trottinant les bords du canal attira tout à coup l'attention des passagers. C'était une manière de panier posé sur 2 roues de brouette et traîné par un vieux chien de boucher. L'automédon de ce char était un bonhomme à barbe fauve, dont le costume ressemblait à celui des commissionnaires. En un clin d'œil, tous les passagers furent à la balustrade, regardant et répétant « Ah, 3 pattes, voilà 3 pattes et son carrosse, 3 pattes, l'estropié de la cour du plat d'étain. Ce dimanche, il va dîner chez son banquier. Ce dimanche, il va souper chez sa belle, le baron Schwartz, la comtesse Corona. « Bonjour, 3 pattes !»« Hu, mendiant !» Ainsi s'exprimaient les marchandes de légumes de Sevran et la jeunesse dorée du vert galant. Similor seul, il faut le dire à sa louange, souleva son vieux chapeau gris et dit avec courtoisie « Salut à vous, monsieur Mathieu !» Monsieur Mathieu, ou 3 pattes, comme on voudra l'appeler, ne tourna même pas la tête. Seulement, quand le bateau l'eut dépassé, son regard moqueur enfila le pont. La vue de la belle jeune fille qui rêvait tristement adoucit l'expression de ses traits et le fit sourire.